Europe 1, il est 7h.
Venir au stade, ça va rien changer du tout. De toute façon, si le coronavirus il doit arriver en France, il arrivera en France.
À Lyon, qui doit-on craindre le plus ? Cristiano Ronaldo ou le coronavirus ? Ce soir, l'OL reçoit la Juventus en Coupe d'Europe. La sérénité de certains supporters n'est pas partagée par tous. Vous l'entendrez, un risque que les milliers de fans italiens apportent dans leur bagage, le coronavirus.
Dans ce journal, nous irons en Italie où l'industrie du luxe et de la mode tourne au ralenti dans le sillage de la Fashion Week de Milan. Et c'est même toute l'économie mondiale qui continue d'accuser le coup.
Le procès Fillon pour détournement de fonds publics, notamment, qui débute véritablement aujourd'hui. L'Assemblée nationale est partie civile et va réclamer des fonds en cas de condamnation.
Si jamais le tribunal estime que les infractions sont constituées, l'Assemblée nationale demandera au total pour 1 081 000 euros.
À la fin de ce journal, portrait de la petite fiancée de l'Amérique, Judy Garland.
Good morning, we've danced the whole night through.
Le film Judy qui sort en salle aujourd'hui, histoire d'une actrice humaine, trop humaine à la destinée exceptionnelle et tragique.
7h01 sur Europe 1, très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Simon Rubin.
La fièvre de la Coupe d'Europe de foot s'empare de Lyon. Ce soir, l'OL reçoit la Juventus de Turin. Et une question, le coronavirus peut-il profiter du foot pour se répandre en Europe ? Ce soir, entre 2000 et 3000 supporters italiens seront à Lyon. Christophe Lamar, vous êtes notre envoyé spécial, les supporters autorisés à se déplacer. Alors on a un peu de mal à comprendre quand on voit qu'en Italie, certaines rencontres ont été annulées à cause du coronavirus, que le nombre de contaminés ne cesse de grimper là-bas. Comment on explique ça, Christophe ?
Eh bien, écoutez, du côté de la préfecture du Rhône, on s'en remet à l'avis du ministère de la Santé. Le Piémont n'est pas considéré à l'heure actuelle comme une zone à risque, donc il n'est pas nécessaire d'interdire le déplacement des supporters italiens. 3000 d'entre eux environ devraient quitter Turin dans la matinée pour arriver en début d'après-midi dans le centre de Lyon. Quant aux Lyonnais, eh bien, ils disent ne pas s'affoler, ils affichent un certain flegme ou une forme de résignation à l'image de Vincent.
Ils peuvent venir au stade, ça ne va rien changer du tout. De toute façon, si le coronavirus il doit arriver en France, il arrivera en France. S'il doit se propager plus en France, ça arrivera, c'est tout.
Assez fataliste et résigné, les Lyonnais comme Jean-Jacques se méfient d'une psychose auto-entretenue selon lui.
On en fait beaucoup, mais le problème c'est qu'après on est dans le doute. Et c'est ce qui crée et qui alimente cette psychose de ce virus. Voilà.
Une chose est sûre, risque de contamination ou pas, les Lyonnais iront au stade ce soir. La rencontre Lyon-Juventus va se jouer à guichet fermé.
Christophe Lamar, en direct de Lyon.
Et vous venez d'entendre la sérénité des supporters. C'est pas le même discours du côté du maire de Mézieux. Mézieux, c'est la commune voisine du stade. Christophe Quignoux s'inquiète de l'arrivée de milliers de supporters italiens.
Cette décision est irresponsable. Qu'à un moment où on ne connaît pas le taux de propagation du virus et qu'il y a des craintes sur sa diffusion au niveau du territoire français, laisser venir 3000 supporters n'est pas raisonnable. Et les populations autour du stade, elles, sont très inquiètes et demandent justement à ce qu'il y ait des mesures qui soient prises. Elles ont peur que des Italiens viennent propager sans contrôle ce coronavirus. Alors moi, je n'ai pas les moyens de prendre des mesures directement sur ma commune. Aucun contact de l'État avec ma commune. Le coût était trop important. Je suis laissé seul. Les seules choses que je vais faire, c'est essayer de dissuader le contact au maximum avec tous ses supporters.
Christophe Quignoux, maire de Mézieux, commune voisine du stade de Lyon, et ce match Lyon-Juventus à suivre en intégralité, soirée spéciale sur Europe 1.
Et on rappelle qu'en Italie, pays européen le plus touché par le coronavirus, on compte 11 morts, plus de 300 malades. La région de Milan est en état d'alerte. 10 villes sont toujours en quarantaine, verrouillées par des barrages routiers.
Et 3 nouvelles régions touchées ce matin. Florence, la région de Gênes également, ainsi que la Sicile. C'est toute l'économie italienne qui tourne au ralenti. Illustration dans le secteur de la mode alors qu'on sort de la Fashion Week à Milan. Mathieu Bock.
Un masque de protection noir sur le visage, assorti à son costume. Un agent de sécurité nous ouvre la porte de la boutique. C'est la première fois de la journée. Aucun client n'est venu aujourd'hui pour acheter de bijoux à Ilaria, qui attend derrière son ordinateur.
Depuis ce week-end, les Italiens restent chez eux. Ils ne viennent pas en centre-ville. On a eu des annulations de Singapour et d'Europe. On s'inquiète pour le mois de mars.
Pour Mario, qui vend des chaussures et des sacs en cuir dans une boutique un peu plus loin, aucune vente non plus ce jour-là.
Pendant la Fashion Week, les hôtels ont eu beaucoup d'annulations, surtout de la part de leurs clients asiatiques. Je pense qu'on va avoir une baisse de 20 à 30%.
Carlo Capassa, le président de la Chambre nationale de la mode, redoute déjà des conséquences pour l'année à venir.
Le premier semestre, on devait augmenter le chiffre d'affaires de 2,5%. Mais en fait, on va plutôt le baisser de 2,5%. Alors ça fait 5% de perte par rapport aux prévisions, c'est beaucoup.
Et Carlo Capassa est impatient de retrouver une situation normale car le potentiel de clients chinois est immense. Pour leur permettre de suivre la Fashion Week à distance, les Italiens ont diffusé tous les défilés et leurs coulisses sur Internet. Résultat, 16 millions de personnes connectées en quelques jours. Milan, Mathieu Bock, Europe 1.
Et puis au-delà de l'économie italienne qui ressent les effets du coronavirus, hier Wall Street a dévissé pour la deuxième journée consécutive. Chute également de la bourse de Tokyo à l'ouverture ce matin.
Europe 1, il est 7h06.
Cette fois, c'est la bonne. Après l'audience express de lundi, renvoyée pour cause de grève des avocats, le procès des époux Fillon et de l'ex-député Marc Joulot débute véritablement cet après-midi au tribunal judiciaire de Paris.
Tous trois sont poursuivis notamment pour détournement de fonds publics. L'Assemblée nationale est partie civile pour réclamer les fonds en cas de condamnation, explique son avocat maître Yves Claes.
L'Assemblée nationale ne règle de compte avec personne et ne traite de façon différente ni François Fillon, ni Marc Joulot, ni les autres parlementaires. Ce que je vais faire valoir, ce sont les préjudices subis par le budget de l'Assemblée nationale. Si jamais le tribunal estime que les infractions sont constituées, l'Assemblée nationale demandera au total pour 1 081 000 euros correspondant au salaire, charges sociales, qui ont été versés. La somme sera répartie entre eux. L'Assemblée nationale se tiendra à bonne distance des joutes entre le parquet national financier et les avocats de la défense.
Maître Yves Claes au micro de Salomé Legrand. Une loi peut-elle vous protéger contre les dérives des réseaux sociaux ? C'est l'idée de Laetitia Avia, députée La République En Marche, dont la proposition de loi repasse devant le Sénat aujourd'hui.
Bonjour Laetitia Avia.
Bonjour.
On a tous en tête l'affaire Griveaux, bien sûr, ces derniers jours, et vous aussi, on l'imagine. Vous portez une loi sur les contenus haineux sur Internet. Principale proposition, rendre inaccessibles dans les 24 heures après notification les contenus manifestement illicites. C'est possible, ça ?
Oui, bien sûr, c'est possible. Les plateformes ont les moyens de traiter des contenus haineux et puis elles ont déjà aujourd'hui la capacité, le pouvoir et le fond. Elles retirent des contenus, mais elles retirent ce qu'elles veulent, quand elles veulent et sans contrôle. Donc l'objectif, c'est vraiment de s'assurer que notre loi s'applique et que tout ce qui est un délit dans la rue, dans l'espace public, eh bien, soit considéré comme tel sur Internet, que les plateformes retirent et qu'elles soient sanctionnées si elles ne le font pas.
Mais supprimer un contenu, même une heure après la publication, c'est souvent déjà trop tard. Vous savez bien que sur Internet, on copie, on duplique tout en quelques secondes.
Oui, c'est vrai. Le problème, c'est que sur les plateformes, celles qui ont une grande viralité, le mal peut être fait en quelques heures, en effet. Mais 24 heures, c'est déjà un format qui est un format qu'on sait pouvoir appliquer techniquement. C'est un format qui est appliqué en Allemagne. Je ne vous cache pas que si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais pu mettre un délai bien plus court. Mais l'objectif, c'est d'avoir une loi qui soit efficace. Et puis surtout, on va demander aux plateformes d'augmenter leurs moyens de modération avec de la modération humaine, avec des modérateurs en plus grand nombre, avec de la transparence. Et je pense que tous ces mécanismes qu'on va imposer au sein des plateformes vont aussi permettre de traiter les sujets plus rapidement et mieux surtout.
Merci Laetitia Avia, merci d'avoir répondu en direct dans le journal de 7h d'Europe 1 à nos questions. Je rappelle que vous portez ce texte sur les contenus haineux sur Internet qui repasse devant le Sénat aujourd'hui.
Emmanuel Macron l'a annoncé hier aux associations qu'il recevait. Il va imposer une charte des valeurs de la République. C'est le fait politique du jour avec vous, Michaël Darmon. Michaël, comment ça fonctionne cette charte et qui a soufflé l'idée au président ?
Eh bien, comme pour la crise des Gilets jaunes, ce sont les maires qui sont les coachs du président. Lors d'un récent déjeuner pour préparer son discours de Mulhouse, le président a écouté le maire de Poissy, Carl Olive. Depuis 2014, cet élu des Yvelines fait signer un document aux fonctionnaires recrutés à la mairie, aux associations qui veulent louer une salle ou obtenir une subvention. Pas de prosélytisme anti-républicain, reconnaissance de l'égalité entre hommes et femmes, la règle est simple, respect de ses principes, contre-financement public. Et Valérie Pécresse l'a également mis en pratique à la région Île-de-France. Le président de la République a donc décidé de généraliser ce dispositif, rebaptisé « Principes et valeurs de la République ». Il sera étendu à tout le territoire. Cela peut concerner près de 700 000 associations qui demandent des subventions publiques.
Et pour quel avantage politique, Michael ?
Eh bien, il faut évidemment éviter de laisser ce terrain à la droite et au Rassemblement National. Hein, c'est l'objectif d'Emmanuel Macron et selon l'expression d'un de ses visiteurs, il va feuilletonner sur le sujet. Après Mulhouse, il y aura d'autres déplacements dans les quartiers sensibles. Hier, en relançant l'idée d'éducation populaire bien perçue à gauche, tout en resserrant le contrôle des associations pour cribler l'islam politique comme le demande la droite, Emmanuel Macron s'est montré encore en faveur du « en même temps » sa croyance politique.
C'était le fait politique du jour avec vous, Mickaël Darmon.
Et toujours sur le terrain politique, la surprise des municipales. C'est ainsi qu'en parle François Baroin. Rachida Dati, candidate Les Républicains à la mairie de Paris, sera, qui est actuellement troisième dans les sondages, elle sera l'invitée de Sonia Mabrouk à 8h15.
Les automobilistes français, dont vous faites peut-être partie, roulent de plus en plus vert. Les ventes d'essence contenant de l'éthanol sont en forte hausse. C'est votre éclairage éco ce matin, Nicolas Barré. Bonjour Nicolas.
Bonjour Simon.
Elle représente désormais hein, ces ventes d'essence avec de l'éthanol, la moitié des ventes en France.
La moitié, oui, effectivement, s'effectue des pleins d'essence s'effectuent avec l'essence contenant de l'éthanol. Alors à la pompe, c'est celui qui est marqué, vous savez, 95 E10, E pour éthanol et 10 parce que cette essence contient 10% de biocarburant, donc produit avec du sucre de betterave ou à base d'amidon contenu dans les céréales. En 10 ans, on est passé en gros de 10 à 50% d'essence contenant de l'éthanol. Comment ? Et bien parce qu'il est moins taxé, donc moins cher de quelques centimes, et du coup 70% des stations-service en France le proposent.
Et c'est très bien tout ça, mais est-ce que ça pollue moins ?
Alors oui, quand on brûle de l'éthanol, on émet 71% de gaz à effet de serre en moins. Donc quand vous avez 10% d'éthanol dans votre plein essence, et bien vous ne roulez pas bio, certes, mais enfin vous émettez 7% de CO2 en moins. Un autre carburant se développe aussi rapidement, c'est le E85. Alors lui, c'est 85% d'éthanol. Bon, pour le moment, seul un nombre limité de voitures le tolèrent, mais ça se démocratise. Ça n'est pas du goût de tout le monde, il faut le savoir. Certains militants écologistes combattent les biocarburants en estimant que l'agriculture devrait se concentrer sur l'alimentaire. Ils oublient juste que pour la filière agricole française, eh bien, c'est un débouché non négligeable. Ça représente 7000 emplois, soit 2,5 fois l'usine Renault de Flins.
C'était l'éclairage de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Merci.
Et vous qui nous écoutez, vous êtes peut-être sur la route du travail en ce moment. Avec quel carburant ? Je ne sais pas. On va essayer de vous donner envie d'aller au boulot aujourd'hui, avec le résultat d'une enquête qui montre que l'entrepreneuriat, c'est bon pour la santé.
Enquête réalisée auprès de 1500 dirigeants. Alors, bien sûr, être entrepreneur, c'est souvent beaucoup de pression. Et les études le montrent, un dirigeant sur 6 est menacé de burn-out. Mais l'entrepreneuriat, c'est aussi une réalité plus complexe, car selon cette enquête, cela favoriserait également la confiance en soi, le sentiment de maîtrise, bref, la forme en général. Tout le détail avec François Geffrier.
À l'inverse de tout ce qui est pathogène, mauvais pour la santé, il y aurait beaucoup d'éléments salutogènes, bons pour la santé. Quand on crée et qu'on dirige une entreprise, c'est ce que dit Olivier Torres, prof à l'université de Montpellier et fondateur de l'Observatoire Amaroc.
Un homme, une femme qui se dit que si je réussis, c'est grâce à moi. Si j'échoue, c'est de ma faute. C'est le sentiment de maîtriser leur destin qui génère de la bonne santé. Quand on est un entrepreneur, on est également un investisseur, un formateur, un employeur. Toutes ces fonctions sont rivées vers l'avenir. Ça génère aussi de l'optimisme. C'est aussi, je dirais, l'endurance. C'est-à-dire, je tombe, je me relève. Et ça, le fait d'entreprendre, augmente ces facteurs-là.
Un constat que partage Fred Potter, lui qui a fondé depuis 25 ans plusieurs entreprises de technologie.
Il y a des moments d'euphorie dans l'entrepreneuriat, quand on a des grands succès, quand on est dans une période où tout va bien pour l'entreprise. L'optimisme vous envahit et il envahit tous les aspects de votre vie. Pour un entrepreneur, la différence entre la vie personnelle et la vie professionnelle est peut-être plus ténue. Et donc, plus naturellement, l'ensemble de votre vie va être impacté par les succès ou les difficultés de l'entreprise.
Un entrepreneur en bonne santé, à condition donc que sa société, elle aussi, se porte bien.
Entreprendre, c'est bon professionnellement et sans doute personnellement aussi. Donc, entreprenez. Voilà le message de François Geffrier, relayé par François Geffrier.
C'est la sortie en salle aujourd'hui du film Judy, qui revient sur la descente aux enfers de la star mondiale Judy Garland.
Film particulièrement attendu et couvert de récompenses, hein, Judy Garland, interprétée par Renée Zellweger. Ça lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice, Mathieu Charrier.
J'ai plus de maison, j'ai même du mal à trouver un imprésario.
Si tu partais à Londres, tu serais grassement payé.
Et c'est ce qu'elle va faire, Judy. Partir à Londres, donner une série de concerts à guichet fermé. Nous sommes à l'hiver 68. Depuis 30 ans, et le magicien d'Oz, Judy Garland est la petite fiancée de l'Amérique. Elle est épuisée, fauchée, alcoolique, a dû laisser ses deux enfants aux États-Unis. Et c'est donc une femme blessée qui s'avance sur la scène du Talk of the Town.
J'ai les mêmes rêves que la plupart des gens. J'ai juste plus de mal à les atteindre.
Et à travers des flashbacks, on revit cette vie sacrifiée sur l'hôtel d'Hollywood, ces régimes forcés, car la métro Goldwyn-Mayer l'a trouvée trop grosse, cette cour aussi autour d'elle, qui n'a eu d'autre objectif que de la pressuriser pour en tirer le maximum de profit. Judy est incarnée par l'oscarisée Renée Zellweger, popularisée pour son rôle de Bridget Jones.
Je ne me rappelle pas d'un seul moment de ma vie où je n'avais pas Judy Garland dans un coin de ma tête. Je ne sais pas en France, mais aux États-Unis, elle chantait chaque année à la télévision. J'ai chanté un paquet de fois dans ma voiture bloquée dans les embouteillages de Los Angeles.
Et Judy est un film musical, terriblement touchant et mélancolique, le destin d'une femme broyée. Judy Garland décédera quelques années après ses concerts londoniens, à l'âge de 47 ans.
Judy, en salle à partir d'aujourd'hui, évidemment, un film européen. Et on va reparler dans Périscope, votre rendez-vous culture à 7h50 avec Jean-Philippe Ballas. Avec Jean-Philippe, nous reviendrons sur les multiples reprises de Over the Rainbow que vous entendez. Judy Garland, là, dans Le Magicien d'Oz, bien sûr. 7h15 sur Europe 1.
Et on termine avec un mot de sport. La victoire du Bayern sur Chelsea 3-0 hier en 8e de Ligue des Champions. Barcelone n'a pas pu faire mieux qu'un nul. Un partout à Naples.
Merci beaucoup, Simon Rubin.